Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus 92.1 FM, la radio de la communauté de l'ULB. Bienvenue dans l'émission Histoire de savoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis Adèle Gobisoran et à mes côtés, Corentin Delbecq, bonjour.
Bonjour Adèle.
Alors aujourd'hui, Corentin, nous allons nous intéresser à une pratique à la fois ancienne et très actuelle, le jeûne. Alors dis-moi Corentin, que penses-tu du jeûne ?
Bien, moi personnellement, je n'y connais pas grand-chose. Je connais des gens, des amis qui ont jeûné ou ont dû jeûner pour diverses raisons. Moi, je ne le pratique pas, je reconnais qu'en fait, j'ai un peu peur pour ma santé. En tout cas, qu'il soit religieux comme pendant le ramadan ou le carême, ou bien pratiqué pour des raisons de santé avec le jeûne intermittent, le jeûne suscite de nombreuses questions. Est-ce bon pour la santé ? Est-ce risqué ? Est-ce que tout le monde peut jeûner ?
Pour en parler, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec André Van Gossom, gastro-entérologue, spécialiste en nutrition clinique, consultant à l'hôpital universitaire de Bruxelles et ancien président de la European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Nous l'avons interviewé pour vous. Alors, comment définiriez-vous le jeûne d'un point de vue médical ?
Alors c'est une bonne question parce que dans la littérature, en fait, il y a beaucoup de confusion. Et heureusement, il y a 2 ans, il y a eu une réunion d'experts internationaux qui ont réalisé une réunion dite de consensus et qui ont un peu clarifié la situation. Alors je ne vais pas tous les citer. Le jeûne, en général, la définition, c'est une abstinence vis-à-vis de certains aliments ou de certaines boissons de manière volontaire, mais qui ne met pas, évidemment, la personne en difficulté. Alors, on définit, il y a le jeûne intermittent, ça ce sont des personnes qui vont, par exemple, 2 fois par semaine, ne manger que 600 à 500 calories, les autres jours, mangent normalement. Il y a le jeûne qui est limité dans le temps au cours de la journée, ce sont les personnes qui vont manger pendant 8 heures sur la journée, et le reste du temps, ils ne mangent pas. Mais on peut également considérer le jeûne en tant que restriction calorique continue. Ce sont des personnes qui vont manger moins de 30% de leur ration énergétique quotidienne. Ça va leur faire perdre du poids, mais sans mettre leur organisme en difficulté. Ou alors, il y a également des jeûnes de type restriction alimentaire, restriction en boisson. Et sans oublier qu'il y a des jeûnes culturels ou religieux, comme le ramadan, comme le carême pour l'Église catholique, quasiment toutes les grandes religions ou courants philosophiques ont proposé des périodes de jeûne ou de restrictions alimentaires.
Est-ce qu'il y a un moyen de distinguer le jeûne d'une situation de famine ?
Alors oui, c'est important, effectivement, le jeûne, dans la grande majorité des cas, est un acte volontaire. Ce n'est que dans certaines circonstances qu'on évoquera peut-être après en préopératoire que c'est un petit peu imposé. Tandis que la famine, là, c'est une situation assez dramatique qui n'est pas volontaire où des personnes, des populations vont se retrouver devant une difficulté d'accès à l'alimentation avec un apport alimentaire énergétique qui est parfois dramatiquement bas et qui peut entraîner des complications infectieuses, voire le décès. Alors ces situations de famine, on les voit malheureusement dans les régions où il y a des conflits ou des guerres où l'accès alimentaire ou l'aide alimentaire est fortement empêché.
En parlant de ça, on aimerait savoir que se passe-t-il concrètement dans le corps lorsqu'on arrête de manger ?
Alors, effectivement, c'est une bonne question parce que quand on arrête de manger, il faut bien entendu continuer à boire. Ne pas boire, après 3 ou 4 jours, on meurt en insuffisance rénale aiguë. Par contre, quelqu'un qui tout d'un coup, par exemple, il y a la situation du jeûne un peu protestataire, quelqu'un qui va faire une grève de la faim, eh bien on a constaté que certaines personnes vont pouvoir survivre, si je puis dire, dans cette période de jeûne pendant 40 voire 60 jours. Alors là, effectivement, il y a un mécanisme d'adaptation dite métabolique, un switch métabolique. Notre organisme et surtout notre cerveau consomment en priorité des sucres, mais notre réserve en sucre est relativement limitée. La réserve en glycogène dans le foie est limitée. Mmh. Après 6-7 heures, on doit utiliser un autre carburant. Alors, si le jeûne persiste, l'organisme va d'abord tenter d'aller puiser dans les muscles certains acides aminés, l'alanine pour donner un détail, qui peut être transformé en glycogène et en sucre. Mais si ce mécanisme continue, au bout de quelques jours, on va avoir une espèce d'auto-cannibalisme, on va détruire nos muscles et c'est très mauvais pour l'organisme. Et donc, à ce moment-là, il y a une autre adaptation. On va aller puiser dans les graisses, dans les triglycérides, les acides gras, qui vont être transformés au niveau du foie en corps cétonique, qui, eux, vont être utilisables par le cerveau. Donc, après 4 à 6 jours de jeûne, de non-alimentation en sucre, c'est un switch métabolique, un autre carburant qui est utilisé par la plupart des organes et par le cerveau.
Donc, si je comprends bien, il faut à peu près 7 heures pour observer des changements.
Alors, oui, minimum 7 heures, hein, parce qu'on considère que finalement, tout le monde, d'une certaine manière, jeûne en cours de sur 24 heures, puisqu'en général, on ne mange pas pendant la nuit pour la plupart des personnes. Mm-hmm. C'est une période de 10 heures. On considère que le jeûne commence et que la réaction métabolique dont je vous ai parlé mm-hmm. va se mettre en route. Il faut au moins 14 heures de non-prise alimentaire.
Donc le cerveau et le corps ne peuvent pas fonctionner efficacement pendant le jeûne.
Si, le cerveau va continuer, heureusement, non, le cerveau va continuer à fonctionner, heureusement, mm-hmm. mais cette adaptation métabolique, qui est une adaptation qu'on hérite probablement de nos ancêtres, du temps du paléolithique, des chasseurs-cueilleurs qui n'avaient pas accès à l'alimentation, l'organisme a dû s'adapter à trouver un carburant. Et donc, après 4 ou 6 jours de non-alimentation, eh bien, on est capable d'aller puiser dans nos réserves en graisse, et c'est la réserve en graisse qui est la réserve la plus importante au niveau énergétique, ces graisses sont transformées en corps cétonique et utilisées par le cerveau.
Donc, on peut comprendre par là que le corps s'adapte.
Tout à fait, il y a une adaptation métabolique à cette période. Évidemment, on ne recommande pas aux personnes de faire un jeûne prolongé, mais on a quelques exemples, je le cite, dans le cadre d'un jeûne protestataire, à l'époque donc de l'IRA, donc l'armée de révolution irlandaise, un nommé Bobby Sands, qui a entamé une grève de la faim pour lutter contre le pouvoir anglais, eh bien, cet homme a pu survivre jusqu'à 65 jours. Il est décédé. Il est décédé, mais c'est un exemple malheureusement remarquable d'adaptation physiologique au jeûne. Et pour compléter l'histoire, quelqu'un qui fait un jeûne protestataire, donc une grève de la faim, sur le plan éthique, on ne peut pas intervenir puisque c'est sa volonté. Et donc, mais l'histoire de Bobby Sands fut célèbre parce qu'en cours de son jeûne, il était nommé au Parlement anglais. Et donc, ça a été évidemment très médiatisé.
Avant d'aller plus loin, nous sommes allés poser les questions à plusieurs étudiants qui pratiquent ou non le jeûne. On les écoute.
Moi, je jeûne depuis, je dirais, 10 ans, peut-être 11 ans, quelque chose comme ça. Donc, je jeûne pour des raisons religieuses, forcément. Le jeûne est un des 5 piliers de l'islam, donc je ne peux pas y déroger et dans tous les cas je n'ai pas envie d'y déroger. Donc on le fait spirituellement pour Dieu. Je ne vois pas ça comme une contrainte, je vois plutôt ça comme une manière pour moi de me purifier et de repartir à zéro. Après un jeûne, après un mois de jeûne, on a l'impression de repartir à zéro et de comment expliquer ça, d'avoir tout effacé, tout péché, tout mal-être, et on repart vraiment sur de bases saines. Je rencontre quelques difficultés à jeûner, mais est-ce que ça m'empêche de jeûner? Non, mais il est évident que je suis suivie par un médecin et que Dieu n'a jamais imposé le jeûne à tout le monde. C'est si on ne se sent pas bien, si on est dans des contraintes, il est même interdit de jeûner en fait. Un jeûneur ne peut pas pratiquer le jeûne si on est malade, ça va en l'encontre de la religion. Donc moi, j'ai des soucis de santé relativement conséquent. Donc pour ce ramadan-ci, en l'occurrence, je n'ai pas jeûné tous les jours parce que, forcément, j'avais des rendez-vous qui annulent le jeûne de toute façon. Des intraveineuses, par exemple, annulent les jeûnes. Du coup, c'est toujours en écoutant son corps et son esprit qu'on jeûne et ce n'est pas du tout une compétition pour savoir, ah, moi je dois jeûner tout comme les autres, etc. C'est vraiment, on s'écoute et on écoute aussi la parole de Dieu dans tous les cas.
On m'a élevée avec l'idée ou la culture, comme on en parlait, il faut jeûner à cette période-là et surtout à partir d'une certaine période donc à partir de 12 ou aux alentours de 12 à 13 ans, il est obligatoire pour un musulman de jeûner. Je pense qu'il y a des périodes, il y a des jours un peu plus difficiles, il y a des jours où je supporte beaucoup plus, il y a des jours où je me rends même pas compte que j'ai jeûné parce que je suis très occupée. Et je pense que justement c'est l'occupation qui fait en sorte qu'on le ressent pas. Moi c'est un avis personnel. Mais sinon, je sais qu'il y a certaines personnes qui supportent mal, mais qui le vivent mal dans le sens de la personne, donc de sa capacité physique, etc.
Je pratique le jeûne religieux. Donc pour moi, le jeûne religieux, c'est d'être, on peut dire, à 100% avec le Christ. Parce que du coup, moi, je pratique le jeûne quand j'ai un problème et j'aimerais vraiment aller en direct échange avec le Christ. Donc, du coup, comme vous avez dit, il y a plusieurs types de jeûne, mais dans le christianisme également, il y a plusieurs types de jeûne. Il y a le jeûne d'un jour, le jeûne de 3 jours et également le jeûne de 40 jours pendant les moments de carême et tout. Mais moi, particulièrement, je fais souvent le jeûne de 3 jours et on appelle ça le jeûne d'Esther, oui. Et pendant le jeûne d'Esther, tu ne manges pas pendant 3 jours et tu ne consommes pas d'eau pendant 3 jours. Rester 3 jours sans manger, c'est pas évident. Donc je me rappelle quand j'ai commencé ça fait 2 ou 3 ans aujourd'hui. Les premiers jours, c'était pas évident. Le deuxième jour, je me rappelle une fois, j'ai dû finir à l'hôpital parce que j'étais tellement épuisée, j'étais tellement fatiguée, oui. Mais maintenant, ces 3 jours, ça passe comme de l'eau. Donc si je commence lundi et mercredi, je finis et je suis en santé. Et généralement, on conseille, on demande à ce que ceux qui ont des problèmes de santé ne font pas ce jeûne.
Moi, je pratique plus le jeûne pour le carême. C'est plus par question donc de tradition religieuse et aussi de pénitence pour moi-même. Moi, je ne fais pas un jeûne sec pile pendant 40 jours. Je jeûne donc du matin jusqu'au soir et je ressens des changements, oui, parce que pendant les journées, elles sont assez longues, je ne mange pas. La faim est assez rapidement ressentie, mais ça va. Et aussi le fait que je sens que mon corps bouge un peu plus différemment et que quand je me réalimente, j'ai besoin de plus petites portions pour être plus pleine.
Je ne pratique pas le jeûne. J'en ai déjà entendu parler, mais c'est jamais quelque chose personnellement qui m'a intéressée. Mais évidemment, je respecte ceux qui le font. Je sais qu'il y a plusieurs raisons.
Alors, docteur Van Gossem, on vient d'entendre plusieurs expériences, plusieurs ressentis, notamment qui touchent aux jeunes plutôt religieux, spirituels. Est-ce que ces ressentis, ces retours vous surprennent ?
Alors, effectivement, si on parle du jeûne, le jeûne religieux est probablement les méthodes de jeûne les plus anciennes. Toutes les grandes religions monothéistes ou les courants spirituels ont proposé des périodes de jeûne, que ce soit dans la région musulmane, catholique ou juive, plusieurs également des restrictions alimentaires. Et donc, quand on voit l'histoire, ça date d'il y a très longtemps, depuis les écrits religieux. Et donc, la notion du jeûne est dans ce cas-là une action plus spirituelle, évidemment, que physique. C'est une sorte de purification. Et donc, l'idée, c'est, dans les religions, de se rapprocher de Dieu et également, par exemple, dans la religion musulmane, au cours du Ramadan, d'avoir une identité dans la communauté. Donc ça, c'est vrai que ces périodes de jeûne à caractère religieux ont un aspect très spirituel.
En entendant ça, en fait, on se pose la question, est-ce que le jeûne a des effets totalement positifs ou totalement négatifs sur la santé qu'on peut observer ?
Alors, concernant les périodes de jeûne et les effets délétères, donc il y a un point particulier. Si je considère le jeûne dit sec, qui est le jeûne pratiqué pendant le Ramadan, donc c'est-à-dire que pendant la période de la journée, les personnes musulmanes qui suivent le Ramadan ne peuvent ni manger ni boire. Et comme vous savez, la période du Ramadan va fluctuer dans le temps. Donc il y a des périodes en mois d'été où la période de non-alimentation de non-boisson est plus longue. Donc là, il y a dans certains cas un impact médical. Et donc, les personnes musulmanes qui suivent le Ramadan peuvent, pour des raisons médicales, ne pas suivre la période de jeûne de Ramadan. Et donc, souvent, je discute avec le patient pour voir. Le patient, bien entendu, a la liberté individuelle de le faire ou non, mais je me dois de parfois donner des conseils si la personne souffre d'une pathologie particulière. Globalement, le jeûne n'est pas à haut risque, mais quelqu'un qui, tout d'un coup, commencerait un jeûne relativement sévère avec une restriction calorique, peut observer certains effets secondaires de type tendance hypoglycémie, tension artérielle qui chute, un peu de malaise. Si ça perdure, bien entendu, là, on peut avoir finalement une perte des réserves énergétiques, une perte de la masse musculaire qui peut impacter le patient, sa qualité de vie. Et également, on a constaté que ça pouvait également impacter la masse osseuse. Comme dans une autre circonstance un peu particulière de jeûne prolongé ou de restriction en tout cas alimentaire, c'est le cas particulier de l'anorexie mentale où les personnes, filles ou garçons, vont s'imposer une restriction alimentaire avec une perte de poids importante. Et là, on peut avoir, si le jeûne est prolongé avec une perte de poids majeure, on peut avoir des complications qui peuvent être, dans certains cas, malheureusement, mortelles.
Tout à fait. Et du coup, là, on a parlé effectivement de l'aspect très médical. Est-ce qu'il y a des situations qui existent et qui parfois exigent ou recommandent médicalement le jeûne, en fait ?
Alors, il y a quelques indications médicales. L'indication qui me vient en premier lieu, c'est le jeûne préopératoire. Et ça, c'est une espèce de dogme médical qui existe depuis longtemps. Avant une chirurgie, les chirurgiens, les anesthésistes surtout, n'aimaient pas du tout que l'estomac soit éventuellement encore rempli d'aliments parce qu'il y avait un risque de rejet, donc de bronchoinhalation. Et donc, très souvent, on disait aux patients, à jeun depuis 18 heures la veille au soir, et l'intervention avait lieu à midi ou à 2 heures le lendemain après-midi. Donc, très souvent, il y avait entre 15 et 18 heures de non-alimentation. Donc, les études ont montré que ça, c'est pas bon, parce que rester à jeun avant une intervention, ça augmente l'anxiété, et surtout, ça va diminuer et modifier la réponse métabolique post-opératoire. Et donc, actuellement, on recommande de prendre des boissons jusqu'à 2 heures avant l'intervention, y compris certaines boissons sucrées adaptées. Et on va également, dès le soir de l'intervention, permettre aux patients, en fonction évidemment du type d'intervention, de se réalimenter. Donc ça, c'est vraiment un jeûne médical qui finalement n'était pas très bon et pour lequel on essaye actuellement de lutter. Il faut que toute l'équipe médicale, les anesthésistes, les chirurgiens, les infirmières, le patient lui-même soit bien informé pour éviter ce jeûne prolongé.
C'est un sujet en fait un peu de débat aujourd'hui dans la médecine opératoire, le jeûne préopératoire.
Oui, ça reste un sujet de débat parce que, comme je le signalais, il faut que toute l'équipe en charge du patient, que ce soit les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmières, diététiciens, soient au courant. Dans certains cas, ça pourrait, vous savez, un programme opératoire, il y a parfois une chirurgie qui est programmée pour 2 heures et qui va durer 4 heures. Et donc, ça peut être différé. Et donc, dans certains cas, les équipes vont dire non, on garde le patient à jeun, parce que si jamais on le prend plus tôt ou plus tard, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment que toute l'équipe soit sensibilisée par cet aspect de limiter l'anxiété et d'améliorer la réponse métabolique.
Avec ces témoignages, on s'est avant tout penché sur le cas du jeûne religieux qui représente une partie importante des gens qui jeûnent, mais ça n'est pas la seule pratique dont on entend parler, Corentin.
Tout à fait, Adèle. Et même si on n'a pas de chiffres exacts en Belgique, on constate que c'est une pratique diététique aussi en plein essor. Chez nos voisins, un sondage IFOP de 2022 a révélé que potentiellement 27% des Français pratiquaient le jeûne, dont 61% de ceux-ci pour des raisons de santé.
Des articles dans des magazines, les techniques de jeûne révolutionnaires élaborées par tel ou tel docteur pullulent sur Internet. Et ces modèles de jeûne se retrouvent aussi souvent promus par les influenceurs sur les réseaux sociaux.
Et c'est ce type de pratique lifestyle mise en avant sur les réseaux sociaux dont on va parler avec le docteur Van Gossem. Mais pas avant une pause musicale. Hunger de The Florence and the Machine. Et on se retrouve juste après pour la suite.
Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Bonjour à tous, si vous nous retrouvez à l'instant, nous sommes sur 92.1 FM Radio Campus sur Histoire de Savoir et nous sommes en compagnie de notre invité, l'expert en gastro-entérologie et nutrition clinique, le docteur André Van Gossem. Donc tout à l'heure, nous parlions des effets médicaux, le jeûne préopératoire notamment, et en fait, pour tout ce qui va être déclinaison, on va dire plutôt contemporaine, qui intègre dans une espèce de dimension lifestyle le jeûne, on entend souvent parler de jeûne détox. Alors dans ce cas-là, est-ce que c'est quelque chose qui apporte vraiment quelque chose? C'est plutôt quelque chose de l'ordre du mythe et de l'influence sur les réseaux sociaux?
Alors oui, effectivement, actuellement, le jeûne a d'autres applications. Donc une des applications évidemment majeures du jeûne, qui utilise soit le jeûne intermittent, soit le jeûne limité au cours de la journée, soit restriction calorique, une des applications majeures, c'est la perte de poids. Alors, certaines études montrent que ça peut entraîner une perte de poids jusqu'à 5 à 10%, mais que ça n'est pas toujours permanent. et qu'il y a un risque de phénomène dit yo-yo, de reprise de poids. Et certains collègues internationaux ne recommandent pas ça. Il faut alors un suivi diététique adéquat pour que ce soit permanent. Alors, actuellement, effectivement, le jeûne est incorporé dans ce que vous appelez les healthy lifestyle, une alimentation, bonne santé, et ainsi de suite. C'est très, très à la mode. Alors, il y a le jeûne détox, effectivement, où pendant une période, un certain nombre de jours, les personnes vont changer tout à fait d'alimentation, ne vont plus boire que de l'eau, des légumes, du bio, et ainsi de suite. Alors, le but peut être multiple. Ça peut être une perte de poids, comme ça peut être une espèce de purification de l'organisme. Et là, on retrouve les traces culturelles, voire religieuses, du régime où on s'améliore, on améliore sa santé. Alors, il y a des techniques même célèbres, comme la technique dite Buckinger. Là, c'est un médecin qui avait mis au point, il accueillait des personnes. On leur donnait d'abord un régime pendant quelques jours, et puis pendant plusieurs jours, vraiment restriction calorique importante, hydratation très importante, et on leur donnait même à boire des solutions pour nettoyer l'intestin, ce qu'on donne en fait avant, en guise de préparation pour une coloscopie. On donne une préparation pour tout nettoyer, et donc ça faisait partie du concept détox. Alors, détox, oui, il y a un aspect physique, mais je pense qu'il y a essentiellement un aspect culturel dans cette approche qui se veut une espèce de purification de l'organisme.
Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour ces exemples.
On va refaire une nouvelle pause musicale avec le titre Diet Coke de Leanna Firestone et on se retrouve juste après.
Drinking Diet Coke never made me sweeter at all, just smaller than I was before. Thought that if I were less of myself, maybe he would want me more. But then the other day, I was on the internet, I read that aspartame might be a carcinogen. Am I at higher risk of cancer than all of my friends? I'll change my body and my hobby, switch from regular to diet. Used to wonder would be worth it if I could die from it. But then I found out being loved and being small feels synonymous, so I don't know. If I could do it all again, would I still drink Diet Coke? Nothing feels as good as water. Summer. I'll change my body and my hobby, switch from regular to diet. Used to wonder if being skinny would be worth it if I could die from it. But then I found out being loved and being small feels synonymous, so I don't know. If I could do it all again, would I still drink Diet Coke? Cure the sweetener headache. And if everything has side effects, starving myself for confidence feels like a fair trade. I'll change my body and my hobby, switch from regular to diet. Used to wonder if being skinny would be worth it if I could document. But then I found out being loved and being small feels synonymous. If I could do it all again, if I
C'était Diet Coke de Liana Firestone, une chanson qui traite de problèmes d'alimentation contrôlée et de perte de poids. C'est des thèmes qu'on trouvait pertinents par rapport à ce qu'on disait, à savoir l'utilisation d'Ozempic, de médicaments ou de jeûne restrictif. Maintenant, on retrouve le docteur Van Gossem qui va pouvoir nous parler plus en détail de cas particuliers de jeûne.
Docteur Gossem, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite jeûner pour se sentir mieux et dans quel cas il ne faut absolument pas jeûner ?
Alors bon, les conseils à donner pour quelqu'un qui veut jeûner, je le répète, il faut d'abord voir quelle est la motivation du jeûne. Est-ce que c'est une perte de jeûne pour perdre du poids ? Est-ce que c'est un jeûne, certaines personnes pensent que jeûner va permettre de vivre plus longtemps. Il y a actuellement aux États-Unis une mode où certains influenceurs proposent différentes techniques où ils vont mesurer leurs paramètres biologiques tous les jours, prendre une centaine de pilules de compléments alimentaires et imposer des périodes de jeûne dans l'espoir de vivre longtemps, voire, comme ils disent, de ne jamais mourir. Donc là, on tombe effectivement dans l'extrême. Donc, il faut voir les motivations. Certaines personnes vont faire des périodes de jeûne pour tenter de maîtriser certaines perturbations métaboliques comme le diabète ou autre. Les études ne sont pas très concluantes. Et alors, il y a une autre catégorie de personnes pour lesquelles il faut être prudent. Il y a actuellement dans la littérature, ou voire dans les médias, une tendance à proposer des périodes de jeûne en cours de traitement du cancer, en cours de chimiothérapie. En deux mots, c'est vrai que la cellule cancéreuse est assez avide de sucre, et donc l'idée, c'est d'affamer le cancer et de le rendre plus sensible à la chimiothérapie. En fait, je vous dirais d'emblée, pour être simple, qu'aucune société scientifique actuellement ne recommande le jeûne pendant des périodes de chimiothérapie, parce qu'au contraire, il faut que le patient continue à s'alimenter correctement, puisqu'on sait qu'en période de avec un cancer, en période de chimiothérapie, il y a des effets secondaires et que beaucoup de patients vont perdre du poids. Donc imposer un jeûne en plus, ça va aggraver la situation. Donc actuellement, ça n'est pas recommandé. Et pour le détail, la cellule cancéreuse, qui effectivement est assez avide en sucre, mais elle est tellement maligne au sens propre du terme que cette cellule va trouver à s'alimenter par d'autres moyens. Donc même si on lui impose une restriction en sucre, la cellule cancéreuse, elle va trouver le moyen et elle change complètement son métabolisme par rapport à la cellule normale. Et elle change son métabolisme, pourquoi ? Pour se donner un milieu propice à la prolifération. Donc, pour être bref, jeûner pendant les chimiothérapies, ça n'est pas recommandé actuellement, même s'il y a certaines études cliniques en cours.
Et dans quelle, justement, situation il ne faut absolument pas jeûner ?
Donc, les situations dans lesquelles il ne faut pas jeûner, c'est certainement pendant l'adolescence et les périodes de croissance. Ça, c'est le premier point. Deux, certainement en cours de grossesse, chez la femme enceinte. Et trois, chez la personne âgée. Ce sont les trois catégories de personnes qui doivent s'alimenter correctement, parce qu'on sait que leur métabolisme et que les demandes énergétiques sont accrues. Alors, évidemment, il y a d'autres catégories de patients pour lesquelles il faut absolument éviter. C'est tous les patients avec une pathologie inflammatoire chronique, type maladie de Crohn, avec un cancer qui est en cours de traitement, après une hospitalisation où beaucoup de personnes vont avoir eu tendance à perdre du poids et de la masse musculaire, là, il faut évidemment encourager les personnes à une bonne alimentation. Et la bonne alimentation, surtout dans ces circonstances-là, il faut toujours considérer un apport protéique adéquat, parce que c'est les protéines qui vont reformer les muscles. Et donc, j'en profite pour mentionner que, quelle que soit la circonstance, une bonne alimentation riche en protéines, il faut la combiner avec une activité physique. Il faut bouger, parce que sinon, on a beau prendre des protéines, le muscle ne va pas l'assimiler.
Vous venez de parler d'activité physique, de protéines justement, et en fait, je me posais la question,
À quel point les régimes, on va dire, qui suivent un mode de vie orienté autour de la musculation, de la culture de la prise de muscles, les régimes de sèche qu'on appelle, qui impliquent une restriction calorique, peuvent être considérés ou non comme une forme de jeûne ?
Alors oui, pour répondre à votre question, pour ces régimes destinés à la musculation, oui, si on regarde la définition actuelle qui a été décrite, ça peut être considéré comme une sorte de jeûne dans le cadre d'une... Dans la classification, il y a également restriction calorique continue, il y a également restriction alimentaire. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont, disons, sélectionner dans leur alimentation certains produits, surtout riches en protéines ou fruits et légumes qui apportent vitamines et moins de graisse. Globalement, c'est toujours la même chose. Alors ces régimes, effectivement, non seulement visent l'alimentation, ce qu'on a dans notre assiette, mais il y a très très souvent la prise de compléments alimentaires sous forme de protéines, sous forme de certains acides aminés, comme les acides aminés branchés, qui sont importants pour les muscles, ou d'autres substances, vitamines et autres. Il faut être prudent, parce que les apports en protéines, globalement, pour donner un peu de détails, on dit que c'est 1 g de protéines par kilo de poids par jour. Évidemment, pour quelqu'un qui a une activité physique importante ou qui est en situation médicale aiguë, on peut aller jusqu'à 1,5 g de protéines par kilo de poids par jour. Mais si on dépasse ça, l'organisme ne va pas l'utiliser et les protéines vont être éliminées. Et certains même évoquent que ça pourrait avoir un effet relativement toxique au niveau rénal. Donc, il faut être prudent dans ces régimes dits spécialisés et avoir quand même un conseil diététique. Et j'ose le dire, se méfier quand même de coachs nutritionnels qui n'ont pas une formation, disons, professionnelle et qui risquent parfois de donner des conseils inadéquats. Donc il faut être prudent vis-à-vis de ces régimes qui sont maintenant un peu prolifiques au niveau des médias.
Docteur, il y a des personnes aujourd'hui qui ont recours à des traitements comme Ozempic. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce qu'il y a des formes de non-retour ou ce serait quelque chose de bien pour la santé ?
Alors là, vous évoquez un sujet qui est très à la mode actuellement. Ce sont tous les médicaments actuellement qui sont destinés à faire perdre du poids.
Exactement.
Donc l'Ozempic, en fait, c'est un analogue du GLP-1. Alors sans être rentrer dans les détails, le GLP-1, c'est une hormone que tout le monde produit en permanence. Quand vous mangez, après le repas, il y a une augmentation du taux de sucre dans le sang, donc de la glycémie, une riposte de l'insuline, et vous avez une production de GLP-1 qui est produit par l'intestin, et les deux actions du GLP-1, donc de l'analogue, c'est-à-dire de l'Ozempic, ça va être de diminuer la sensation d'appétit et de ralentir la vidange gastrique. Donc c'est ça que l'industrie, c'est une firme danoise qui a pu mettre au point donc cet analogue du GLP-1, l'Ozempic ou d'autres médicaments, qui font perdre du poids. Alors, les études sont positives. Les personnes vont perdre jusqu'à 30% de leur poids corporel. Il y a évidemment des indications. Je rappelle qu'au début, l'Ozempic était essentiellement destiné aux patients en excès de poids et diabétiques. Et maintenant, ça a été évidemment utilisé simplement pour l'excès pondéral ou l'obésité. Mais une fois de plus, il faut un suivi médical ou diététique parce que si pendant cette période de traitement, si les personnes ne parviennent pas à modifier leur comportement alimentaire, dès qu'ils vont arrêter, ce sera un échec. Or, ces médicaments coûtent relativement cher, donc vous n'allez pas le prendre pendant des années. Donc, il faut vraiment que ce soit une aide, comme c'était le cas de la chirurgie bariatrique, avec les bypass et autres, une aide pour modifier sa prise alimentaire.
Est-ce que à ce moment-là, on peut parler de jeûne artificiel ?
Alors, est-ce que en prenant des médicaments de type Ozempic ou autre, on parle de jeûne artificiel ? D'une certaine manière, oui. En fait, c'est pas réellement jeûne. Donc, oui, on diminue la sensation d'appétit. Donc cette hormone va faire en sorte de provoquer une sensation de satiété plus rapide. Et donc les personnes qui sont sous traitement vont avoir moins faim, vont se restreindre au point de vue prise alimentaire. Donc c'est de manière artificielle, comme vous l'évoquez, une sorte de jeûne caractérisé par une restriction alimentaire.
Et pour conclure, finalement, est-ce que en une phrase, vous pourriez nous dire, est-il bon de jeûner ?
Alors, en une phrase, est-il bon de jeûner ? C'est quasiment impossible de répondre en une phrase. Le message, c'est de dire, est-ce que j'ai essayé d'expliquer au début de mon interview, c'est qu'il faut, il y a différents types de jeûne. Donc le jeûne intermittent, la restriction calorique, et ainsi de suite. Et deux, il faut voir la motivation. Est-ce que c'est pour perdre du poids ? Est-ce que c'est à caractère religieux ? Est-ce que c'est éventuellement à caractère protestataire comme une grève ? Donc c'est ça qu'il faut voir. Alors dans certains cas, ça peut être positif. Ça peut aider le patient à perdre du poids dans la mesure où il y a un accompagnement. Dans d'autres cas, comme le jeûne préopératoire, comme dans le cas de la restriction alimentaire parfois majeure de l'anorexie mentale ou du protestataire, donc qui fait une grève de la faim, là, ça peut être dangereux. Donc, il faut vraiment un encadrement médical et diététique en ce qui concerne le jeûne et ne pas se laisser entraîner par... Je le dis par des influenceurs qui vont dire, voilà, vous allez vous sentir mieux. Non, si on veut se sentir mieux, il y a moyen de se sentir mieux en adaptant un régime alimentaire adéquat, en refaisant l'activité physique, en dormant correctement, en évitant la prise de médicaments.
Merci beaucoup, docteur André Van Gossom, pour cet échange très éclairant.
Avec plaisir.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.
La machine a rêvé, a dépassé le temps, saluant l'éternel.